Audible Studio présente Les Aventuriers de la Mer, tome 5 Prison d'eau et de bois de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David Maresco, lu par Vincent Deboire. Intermède. Il ne s'agit pas d'un véritable nœud, se dit Shriver. Un véritable nœud se rassemble autour de son chef respecté. Ces serpentiers étaient des égarés qu'ils avaient recueillis un ou deux à la fois en suivant le pourvoyeur vers le nord. Les serpents qui nageaient à leur côté aujourd'hui ne partageaient aucun lien fraternel avec le nœud de Molkin. Ils ne faisaient que suivre la même source de provende. Pourtant, leur compagnie était réconfortante. Par moments, certains paraissaient presque lucides. D'autres, avec leur silence et leur regard vide, ressemblaient à des fantômes. Les pires étaient à peine plus conscients que des animaux, capables d'attaquer avec leur venin ou leurs dents quiconque s'approchait trop de la nourriture qu'ils s'étaient appropriée. Shriver, Molkin et Cessurea avaient appris à ignorer ceux qui étaient retournés à cet état bestial. En vérité, ils n'étaient pas les plus pénibles à supporter. Ceux-là qui étaient prêts de se rappeler leur état présent et passé, c'étaient eux les plus navrants, les plus pitoyables. Les trois serpents du nœud originel n'étaient guère plus loquaces que les nouveaux venus. Il était difficile de trouver un sujet de conversation qui ne les conduisît pas plus loin dans le désespoir. Shriver se souvenait vaguement d'avoir connu d'autres périodes de famine. Un jeûne trop prolongé pouvait entraîner un éparpillement, une dispersion de la pensée. Elle avait ses petits rites pour préserver sa santé mentale. Chaque jour, elle se remettait en mémoire le but commun. Ils avaient émigré vers le nord quand Molkin avait su que le moment était venu. Celle qui se souvient aurait dû les accueillir. Elle aurait dû faire renaître leurs souvenirs. Elle aurait dû les guider vers l'étape suivante. « Mais quelle aurait été cette étape ? » marmonna-t-elle pour elle-même. « Quoi ? » demanda Cessurea d'une voix ensommeillée. Ils étaient ancrés ensemble au cœur d'une gerbe de serpents endormis. Une dizaine environ. Ce n'était que la nuit qu'ils paraissaient se rappeler quelques vestiges de manière civilisée. Ils joignaient leurs anneaux dans le sommeil, comme s'ils formaient un véritable nœud. Shriver s'accrocha fermement à sa pensée. Quand nous aurons trouvé celle qui se souvient et que les souvenirs nous seront revenus, que se passera-t-il alors ? Cessurea poussa un soupir somnolent. Si je connaissais la réponse, nous n'aurions sans doute pas besoin de chercher un gardien de mémoire. Molkin, qui était entre deux, ne bougea même pas. Le prophète semblait s'affaiblir de jour en jour. Shriver et Cessurea, devenus plus agressifs, ne lâchaient pas la nourriture que le pourvoyeur leur distribuait. Molkin, lui, ne voulait pas se défaire des anciens usages. Même après qu'il avait saisi un corps sans vie dégringolant dans le plein, si l'une de ces créatures sans âme s'en emparait, il le lui abandonnait. Il préférait se priver de manger plutôt que de se battre comme un animal. Les ocelles qui brillaient jadis tout au long de son corps ne faisait plus que de pâles mouchetures. Parfois, il permettait à Shriver de lui apporter de la nourriture, mais le plus souvent, il refusait de s'alimenter. Elle n'avait pas eu le courage de lui demander s'il lui aussi était prêt de renoncer à leur quête. Soudain, il se fit un mouvement dans la forêt de reptiles endormis. Avec la lenteur des rêves, un serpent mince, d'un vert vif, se libéra d'une torsion et remonta mollement vers le vide. Trop là pour éprouver une véritable curiosité, Shriver et Cessurea échangèrent des regards déconcertés. Les actes des sans-âmes étaient absurdes. Il était vain de s'interroger. Shriver ferma les paupières. Puis, de très loin au-dessus d'eux, leur parvinrent les notes étrangement pures d'un chant. Shriver écouta un moment, saisi d'une crainte respectueuse. Les sons étaient justes, la diction parfaite. Ce n'était pas la sonorité flûtée ni le rugissement d'un serpent donnant libre cours à son allégresse, mais la réponse éclatante, triomphante, à un appel. Elle rouvrit les yeux. Le chant de la simplicité, déclara Molkin d'une voix rauque, le souffle court. Cessuréa roula lentement des yeux pour marquer son assentiment. Les trois serpents se dégagèrent en douceur et montèrent en ondulant pour pointer leur tête dans le vide. Là, dans la clarté d'une lune pleine et toute ronde, le serpent vert chantait, la tête renversée en arrière. Sa lourde crinière pendait lâchement sur son poitrail. Sa gueule béait. Claires et douces, les paroles s'élevaient de celui qui avait été muet. Vers après vers, il scandait les paroles précieuses de l'antique complainte des origines. Jadis, les autres auraient repris en chœur le refrain, célébrant à l'unisson l'époque d'un plein plus chaud des poissons migrateurs. À présent, ils étaient sans voix. Ils écoutaient ce don du ciel, mais craignaient de l'interrompre en y participant. Le chanteur était beau dans sa puissance et sa concentration. Il balançait la tête, dilatait puis étirait le poitrail en produisant les notes amples et profondes. Shriver ne regardait pas ses yeux. Ils étaient larges et vides, alors qu'il prêtait sa voix au plus sacré des chants. À ses côtés, Molkin inclinait la tête. Des ondes d'émotion le submergeaient et faisaient luire ses ocelles d'un éclat fugace. Très lentement, sa crinière se déploya sur son poitrail. Son venin, autrefois si abondant et toxique, montait à peine jusqu'aux pointes. Shriver, extasié, en sentit une goutte lui brûler la peau. La nuit était claire, brillante, chaude de promesses. « Épargne tes forces !» lui conseilla tristement Cessuréa. « Son chant est beau mais sans âme. Nous ne pouvons lui redonner vie. L'effort ne ferait que t'affaiblir davantage. » « Il ne m'appartient pas d'économiser mes forces, » rétorqua Molkin qui ajouta d'un ton morose. « Parfois, je crains qu'il n'y ait plus lieu de les épargner. » Néanmoins, il ne s'approcha pas du serpent vert. Ils restèrent ainsi tous les trois, unis dans l'écoute de cette mélopée envoûtante, mais étrangement séparés de lui, comme si les paroles leur parvenaient d'un lointain passé, d'une époque à jamais abolie. Le regard fixé sur la lune, la tête oscillant avec grâce au rythme de son chant, le serpent vert répéta le refrain trois fois comme il était prescrit. À la dernière note, qu'il tint haute et pure, Shriver s'aperçut que d'autres serpents les avaient rejoints. La plupart regardaient autour d'eux comme s'ils s'attendaient à découvrir une source de nourriture. Le pourvoyeur avait continué sa progression de nuit comme il le faisait toujours. Sa masse ne déformait pas l'horizon. Demain, ils le suivraient tous à son odeur flottant dans le plein. Il était facile à rattraper. En l'absence du pourvoyeur, ils reportèrent les yeux sur le serpent vert. Figé dans la posture qu'il avait adoptée, il contemplait la lune. Dans un dernier souffle, il exhala cette ultime note. Puis, seul prolongement possible du chant, le silence les engloutit. À cet instant précis, Shriver perçut une très subtile modification qui s'opérait dans le groupe. Certains serpents semblaient désorientés, comme s'ils tâchaient de se rappeler quelque chose. Tous restaient immobiles et muets. Tous, sauf Molkin. Avec une soudaineté que démentaient sa peau ternie et ses flancs creux, il franchit comme un éclair la distance qui le séparait du serpent vert. Ses ocelles d'or miroitèrent brièvement et ses yeux lancèrent des étincelles cuivrées alors qu'il l'enveloppait. Il l'aspergea du peu de toxine qu'il était capable de produire, puis il l'entraîna vers le bas sans relâcher son étreinte. Shriver entendit le cri perçant et indigné de l'autre qui ne témoignait aucunement d'une conscience intelligente. C'était la fureur déchaînée d'une bête acculée. Cessuréa et Shriver plongèrent à leur suite jusqu'au fond. Agités par les coups de queue, la vase troubla et gorgea le plein. « Il va étouffer !» s'écria Shriver, affolé. si le ver ne le met pas d'abord en pièces ?» répondit Cessuréa lugubrement. Leurs crinières se gonflèrent de toxines tandis qu'ils descendaient en battant de la queue. Derrière eux, les autres serpents s'enchevêtraient dans une mêlée confuse. Les actes de Molkin les avaient inquiétés. Impossible de savoir comment ils allaient réagir. « Il se pouvait, » pensa froidement Shriver, « qu'ils se retournent tous contre trois. Dans ce cas, le nœud de Molkin n'avait guère de chance d'en réchapper. » Elle flanqua Cessuréa qui plongeait dans les ténèbres alourdies de vases. Presque aussitôt, elle suffoqua. Tout son instinct lui criait de regagner des eaux plus claires. Mais elle n'allait pas se laisser dominer par son instinct comme un animal. Elle se força à descendre plus bas jusqu'à sentir les vibrations de la lutte. Elle l'étouffait au point de ne pouvoir identifier l'odeur des combattants. Elle avait fermé deux fois les yeux pour se protéger des grains de sable. Elle lâcha les faibles toxines dont elle était capable en espérant qu'elle ne paralyserait ni n'affaiblirait ses suréas. Puis, elle s'enroula autour des lutteurs et banda toutes ses forces pour les entraîner vers l'eau claire où ils pourraient respirer. Elle sentit qu'elle traversait un banc de petits poissons étincelants. Des taches, des traînées colorées lui brouillèrent la vue. Quelqu'un derrière elle avait déchargé du venin qui la brûlait, la transperçait. C'était le fond du plein, certainement, qu'elle s'efforçait de soulever. Elle n'aspirait qu'à se débarrasser de son fardeau et à filer pour respirer, mais elle continua de lutter avec acharnement. Soudain, ses ouïes béantes sentirent l'eau plus pure. Elle souleva les paupières, ouvrit la gueule toute grande en déployant ses branchies qui absorbèrent les poisons mêlés à l'eau. Elle reconnut l'arrière-goût éventé des toxines de Molkin, jadis puissantes, et les acides moins disciplinés de Cessuréa. Le serpent vert avait lui aussi lâché des toxines. Épaisses et fortes, elles étaient surtout destinées à paralyser les poissons. Mais Shriver ne se laissa pas troubler. Son regard croisa celui de Cessuréa. Il secoua sa crinière et le serpent vert qui se débattait faiblement devint flasque. Molkin parvint à relever la tête. « Doucement, doucement !» leur dit-il. « Pendant qu'on se battait, il m'a parlé. D'abord, c'était des malédictions. Puis, il a demandé de quel droit je l'avais attaqué. Je crois qu'il peut encore être éveillé. » Shriver n'eut pas la force de répondre. Il lui fallait toute sa volonté pour maintenir sa prise sur les autres tandis qu'elle se démenait avec Cessuréa pour traverser le fond troublé. Son compagnon repéra un pli rocheux. Il fut difficile de les entraîner jusque-là et plus difficile encore de trouver des prises qui les assureraient tous. Molkin n'était pas plus utile qu'un tas de varech. Le serpent vert était toujours sans connaissance. Quand ils se furent installés, Shriver n'eut qu'une pensée, se reposer. Pourtant, elle n'osait pas se détendre. Il berçait parmi eux un étranger qui pouvait se réveiller brutalement. Plusieurs autres serpents les avaient découverts. Ils se tenaient à distance en les couvant d'un regard curieux, ou avide peut-être. Avec un frisson de dégoût, elle se demanda s'ils auraient intérêt à les attaquer. S'ils avaient vu le nœud de Molkin dévorer le serpent vert, se seraient-ils pressés autour pour en arracher un morceau? Elle avait peur et elle les guettait, méfiante. Molkin était épuisé. L'affreux brun grisâtre de sa crinière en témoignait. Mais il ne renonçait pas. Il frottait le serpent vert de ses anneaux. Il loignait des quelques gouttes de toxines qu'il pouvait puiser en lui. « Qui es-tu ? » interrogeait-il sans répit. « Autrefois, tu étais un ménestrel et un fameux. Autrefois, ta mémoire renfermait mille mélodies, mille paroles de chant. Essaie de te souvenir. Dis-moi ton nom, seulement ton nom. » Shriver voulut lui conseiller de ne pas gaspiller ses forces, mais n'en eut pas l'énergie. C'était vain, manifestement. Il lui semblait que le serpent vert n'était même pas conscient. Molkin allait-il insister encore longtemps? Aurait-il assez de force pour rattraper le pourvoyeur demain? Les actes de Molkin leur avaient peut-être coûté leur dernière chance de survie. Conteur, marmonna le serpent vert, les ouïes palpitantes. Je m'appelle Conteur. Un frisson courut le long de son corps. Il s'enroula autour de Molkin et le serra étroitement, comme si un fort courant menaçait de l'emporter. Conteur, s'écria-t-il. Conteur, je m'appelle Conteur. Il ferma les paupières et baissa la tête. Conteur, marmonna-t-il. Il était épuisé. Shriver chercha en elle une pointe de triomphe. Molkin avait éveillé celui-ci. Mais pour combien de temps? Les assisterait-ils dans leur quête ou ne ferait-il que puiser davantage dans leurs ressources? Le cercle d'observateurs se resserra autour d'eux. Shriver sentit ses suréas remuer avec lassitude et devina qu'ils se préparaient au combat. Elle leva la tête et voulut secouer sa crinière d'où s'échappa un peu de son précieux venin. Elle décocha un regard menaçant à ceux qui les entouraient. Ils ne s'en émurent pas. Le plus grand de tous, un bleu cobalt, se rapprocha. Il mesurait bien un tiers de plus que ses suréas, et il était deux fois plus gros. De sa gueule béante, il tâtait l'eau à la recherche de toxines. Soudain, il rejeta la tête en arrière et déploya sa crinière.
« Kélaro ! » brailla-t-il. « Je m'appelle Kélaro !»
Il claqua des mâchoires, avidement. Il avalait les toxines, les aspirait par ses ouïes.
« Je me souviens !» déclara-t-il. « Je m'appelle Kélaro !»
À son hurlement, certains battirent en retraite, surpris. D'autres ne firent pas attention. Il tourna la tête pour regarder un serpent rouge tout couturé.
« Et toi, tu t'appelles Silik, mon ami Silik. Autrefois, nous faisions partie du nœud de Xécrès. Qu'est-il devenu? Où sont les autres de notre nœud ?»
L'air furieux, il s'approcha du serpent rouge aux multiples cicatrices qui le contemplaient toujours, les yeux vides.
« Silik, où est Xécrès ?»
Le regard inexpressif de Silik provoqua sa fureur. Le grand serpent bleu s'enroula autour de son compagnon, le serra comme s'il était une baleine qu'il voulait noyer et dévorer. Sa collerette se dressa, gonflée de poison. Il luttait dans un nuage de toxines.
« Où est que ces cresses, Silik ? »
demandait-il. Mais le serpent rouge se débattit de plus belle, l'autre le serra plus étroitement.
« Silik, dis ton nom, dis, je m'appelle Silik, dis-le !»«
Il va le tuer !» déclara tout bas Sessuréa, horrifié.
« Ne t'en mêle pas !» gronda Molkin. « Laisse faire, Sessuréa. Car s'il ne peut pas éveiller Silik, alors il vaut mieux qu'il meure, ainsi que nous tous. »
La résignation dans sa voix était glaçante. Shriver tourna la tête pour le regarder, mais Molkin reporta les yeux sur le serpent vert endormi au cœur du nœud. Elle entendit une voix nouvelle derrière eux, perçante, essoufflée.
« Silik, je m'appelle Silik !»
Le serpent rouge luttait faiblement. Kélaro desserra un peu ses anneaux sans le libérer.
« Qu'est devenu Xécrès ?»«
Je n'en sais rien. »
Les paroles étaient confuses, les phrases lentes, comme si parler, lier pensée et mots représentaient un grand effort.
Il s'est oublié. Un matin, nous nous sommes réveillés et il avait disparu. Il avait abandonné son nœud. Peu après, les autres ont commencé eux aussi à s'oublier.
Furieux, il secoua la tête et un nuage de toxines s'échappa de sa crinière déchiquetée.
« Je m'appelle Silik, »
répéta-t-il amèrement.
« Silik, le sans-ami. Silik, le sans-nœud. »
Silik du nœud de Molkin. Kélaro du nœud de Molkin, si tu le souhaites.
La voix de Molkin avait retrouvé son timbre passé. Ses ocelles dorées luirent brièvement. Kélaro et Silik lui lancèrent un rapide coup d'œil. Puis,
Le premier s'approcha d'eux sans lâcher Silik. Immense et menaçant, ses yeux noirs piqués d'argent roulèrent dans leurs orbites tandis qu'il contemplait le nœud pitoyable auquel on lui avait proposé de se joindre. Puis, il inclina gravement sa grande tête.
« Molkin !»
Il le salua, enroula l'un de ses anneaux autour du rocher auquel il s'était ancré et attira son ami plus près d'eux. Avec prudence, de crainte de leur déplaire, il se mêla à Cesurea, Shriver et Molkin.
« Quel arro du nœud de Molkin vous salue tous !»«
Silik du nœud de Molkin !»
fit en écho le serpent rouge tout meurtri. Alors que fatigué il s'installait pour se reposer, Cesurea déclara
« Nous ne pouvons dormir longtemps si nous voulons rattraper le pourvoyeur. »
« Nous pouvons dormir jusqu'à ce que nous soyons prêts à voyager, »
corrigea Molkin.
« C'en est fini des pourvoyeurs. À partir de maintenant, nous chasserons comme de véritables serpents. Un nœud fort ne doit pas dépendre de la générosité d'autrui. Quand nous ne chasserons pas pour nous nourrir, nous chasserons pour trouver celle qui se souvient. On nous a accordé une dernière chance. Nous ne devons pas la gâcher. »